Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture. Et à l'approche de la saison des prix littéraires, les listes des finalistes commencent à susciter les commentaires. C'est l'occasion pour vous, Jacques, de poser la question de l'auteur en littérature.
Oui, Clara, après leur deuxième sélection révélée le 1er septembre, les 10 jurés du Goncourt, par exemple, annonceront les 4 finalistes le 27 octobre à Cabourg à l'occasion du centenaire du prix Goncourt attribué le 10 décembre 1919. À Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Profusion de l'autofiction, confusion entre récit et roman, injonction de vérité, les pages débats et controverses de l'humanité s'interrogent sur le vrai en littérature. Pour Olivier Barbaran, et n'en déplaise à Thomas d'Aquin, toute vérité ne se définit pas par l'adéquation entre la pensée et les choses. Il y a des régimes de vérité. Celui qui répond à la littérature n'est pas celui du savant, du journaliste ou du policier. La terre est bleue comme une orange, peut oser Éluard en ajoutant « jamais une erreur, les mots ne mentent pas ». L'écrivain estime que la littérature ne reproduit pas la réalité, elle en produit une en donnant voix à ce qui n'était pas apparent avant elle. Et il précise qu'il y a des régimes de vérité spécifiques au genre littéraire. Un pacte éthique définit l'autobiographie, celui qui dit « je y est l'auteur », les faits évoqués ont eu lieu ou ont été sincèrement perçus comme tels lorsqu'elle a vu le jour. L'autofiction, pour sa part, essayait d'explorer ce que pouvait produire une introspection doublée de possibles embardés imaginaires. Pour Jean-Luc Nancy, si je publie le récit de la vie, des malheurs ou des joies d'un autre, en le présentant comme récit de ma vie, j'annule ipso facto le caractère littéraire de mon récit, puisque je détourne l'attention ou une bonne part d'elle sur le fait que ce soit mien. J'éveille une curiosité, non un accès au récit lui-même. A contrario, publier des confessions ou des mémoires engage dans le récit et comme sa base continue, le fait même de se raconter et les risques, attraits, complexités qui s'en suivent. Comme disait Rimbaud, je est un autre et pour le philosophe, plus grand est un écrivain, moins substantiel, moins référentiel son identité. Dans les pages idées de l'Obs, Clémentine Vidal-Naquet pose à sa manière d'historienne la question du rapport à la vérité à travers le travail de l'archive. Dans la nouvelle collection qu'elle dirige à la découverte, à la source, le premier volume est signé Arlette Farge et s'intitule « Vies oubliées ». La vie qui s'y révèle est touchante et un détail peut exprimer un trait de l'époque. Plaisir de l'enquête, même si on est souvent perdu face à la profusion des documents au moment de la plongée. Rapport au mystère, l'historienne s'y montre très attentive, comme elle l'a toujours été, Arlette Farge, à la parole des gens de peu. Aujourd'hui, ajoute Clémentine Vidal-Naquet, les historiens s'interrogent de plus en plus sur la façon dont on peut écrire l'histoire. L'archive est prise dans cette interrogation. Elle interroge notamment le rapport entre le singulier et le collectif, ce qui est toujours compliqué quand on fait de l'histoire. Elle-même, Clémentine Vidal-Naquet, prépare un ouvrage à partir d'un album photo trouvé à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne et qui date de 1919. Son travail portait sur les relations conjugales pendant le conflit et elle se demandait ce que devenaient ces couples une fois la guerre achevée, alors que les sources, principalement des correspondances, se tarissent. Cet album de photos lui a révélé le cas étonnant d'un soldat engagé volontaire qui se marie après les combats et emmène son épouse en voyage de noces dans les tranchées. Il a passé cet homme un an à constituer l'album et l'offre à sa femme pour leur premier anniversaire de mariage. Parmi les prochains volumes de cette collection à la source, Hélène Dumas, spécialiste du génocide rwandais, travaille sur des cahiers d'orphelins survivants. Faire une revue, c'est aussi former une communauté de discussion et d'écriture. Tiphaine Garnier fait partie du trio qui a décidé de relancer la célèbre revue de poésie TXT, fondée en 1969 par Christian Prigent et Jean-Luc Steinmetz, et qui s'était engagé dans les suites de mai 68 avec la grimace d'un rire carnavalesque, selon le mot célèbre de l'édito du premier numéro, lancé face au vieux monde et à la vieille littérature. La nouvelle livraison cultive la surprise. Et le bizarre, le jeu et la radicalité, jamais la nostalgie d'une grande époque. La revue est par ailleurs ponctuée par des pages d'un faux almanach, parodie d'éphémérides et de petites annonces, le tout salé d'humour vache. Ces pages de l'almanach ont été écrites à plusieurs mains. Ça a été un lieu d'émulation, d'écriture joyeuse. Pour Tiphaine Garnier, TXT a encore à dire que la poésie est avant tout travail de la langue dans toutes ses dimensions sensibles, sonores, visuelles, et que ce travail croise également toutes les variations historiques, géographiques, sociales de la langue.